exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux. Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonsoir à tous, vous êtes sur Nantes Jeunes en partenariat avec JetFM. Nous sommes le samedi 15 septembre 2018 à la Cité des Congrès pour le 26e festival de Tisser Métis. Je suis en compagnie de Shama Chero. Alors, c'est une photographe qui possède une exposition au niveau de la mezzanine. Son exposition a été une inspiration, si je ne me trompe pas, par rapport à un voyage au Burkina Faso en 2016.
C'est ça.
Nous avons aussi Bader, le directeur du Centre socio-culturel de la Bottière. Mais aussi Sarah, une jeune qui fait de la radio.
Et accessoirement du rap.
Exactement. Oh. Donc aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de Noël, précisément à 9 jours. Ainsi, depuis quelques années, nous avons retrouvé au pied du sapin tout type d'objets high-tech, comme des tablettes, des téléphones, etc. C'est pourquoi nous allons nous poser une question. Sommes-nous une génération mouton? C'est-à-dire, on suit toujours la même chose, ce que fait notre voisin. Mais aussi, et les digital natives sont-ils obéissants? Et pour ça, nous allons avoir Cédric qui va nous expliquer ce que c'est concrètement.
Donc, selon le site d'OIP Solutions, un éditeur de logiciels, un digital native est une personne qui a grandi dans le numérique, donc avec les ordinateurs, les portables, qui les utilise naturellement, contrairement à leurs aînés qui les maîtrisent au prix d'efforts d'adaptation.
Bah, ma première question est la suivante. Vous sentez-vous concerné par ce thème?
Oui, bien sûr, parce qu'en tant que jeune, un peu plus vieille que vous, du coup, mais pas très loin, du coup, tout ce qui est digital, technologie, moi, j'ai grandi un petit peu avec cette évolution-là, cette transition-là. Je pense qu'il faut faire attention aussi à ça, comme vous le disiez juste avant. Moi, je suis très concernée par ça par rapport à mon métier, vu que je suis photographe. La communication, le digital, le web, je suis obligée de passer par là pour véhiculer mon travail. Et surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est une des choses les plus importantes, je pense, dans le métier de photographe et de vidéaste, parce que c'est comme ça que ça marche et les jeunes vont dessus. Donc, on est obligé d'avoir ce rapport qui n'est pas physique, du coup.
Et vous, Bader, vous vous sentez concernée par ce thème?
Forcément, aujourd'hui, on se lève, on est connecté, on se couche, on est connecté, on vit avec le numérique, tout passe aujourd'hui par le numérique, donc forcément, oui, c'est un sujet qui revient assez régulièrement ces derniers temps.
Et Sarah, vous vous sentez concernée par ce thème?
Ah, complètement, de par, comme tu le disais aussi, ma jeunesse, parce que depuis que je suis née, j'ai baigné dans le numérique. Finalement, je sais qu'on nous appelait même la génération de l'instinct, c'est-à-dire qu'on a un appareil dans les mains, et aujourd'hui, on n'a même plus besoin de lire une notice ou d'avoir un apprentissage. Finalement, ça vient tout seul, ça vient tout de suite, et aussi de par le fait que je fais de la musique, comme toi avec la photographie, où aujourd'hui, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par le numérique pour transmettre notre art. Donc c'est vrai que c'est des outils qu'on utilise tous les jours.
Très bien. Et justement... Est-ce que pour vous, Shama, les réseaux sociaux ont changé notre rapport avec les autres?
Oui, malheureusement et heureusement, je pense, des deux côtés. Moi, je le vis de manière hyper positive parce que dans mon travail, c'est quelque chose qui m'apporte énormément en termes de visibilité et de tout. Mais après, je pense que les jeunes, plus jeunes que moi, du coup, sont ultra connectés. Il y a quelque chose à modérer là-dedans. Et je pense que les parents font partie aussi de ce chemin-là d'éducation. Mais ça a changé beaucoup de choses. Parce que maintenant, on veut juste... avoir quelqu'un au téléphone, c'est bon, c'est vite fait. Ou sur les réseaux sociaux, on sait que ce que tout le monde fait, ce que tout le monde mange. Donc oui, je pense que ça a changé beaucoup de choses de manière positive et négative. Ouais.
Et vous, Badia, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit
complètement, bien sûr. On en parlait dernièrement. Effectivement, moi, je suis d'une génération où il n'y avait absolument pas Internet. Mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, effectivement, nous, on arrivait au collège à l'époque ou au lycée. On avait plein de choses à se raconter. Tandis que je m'aperçois qu'aujourd'hui, les jeunes arrivent à l'école, au collège, et comme tu viens de le dire, ils savent déjà ce qu'ils ont mangé la veille, leurs collègues, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait, etc. Ils arrivent limite, ils se disent bonjour, et puis après, ils se regardent, ils retournent dans leur téléphone. Et puis voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Il va falloir à un moment donné être très attentif à ça, c'est-à-dire que à force de mettre des moyens de communication, j'ai l'impression qu'on communique de moins en moins. Donc voilà.
Toi, Sarah, qui est un peu plus concerné que les deux autres invités, tu es d'accord avec ça?
Oui, je les rejoins tout à fait, dans le sens où je pense que ça change notre rapport aux autres. En fait, dans le sens où ça peut être dangereux, parce que ça peut aussi causer des isolements. On peut tellement tout faire à distance, on peut tellement communiquer avec tout le monde sans avoir besoin de le voir, etc., que de plus en plus de personnes vont s'enfermer et vont tout faire derrière leurs écrans. En cela, ça peut être un danger. Aussi, pour tout ce qui est véhiculé, on peut dire des choses sur certaines personnes qui sont fausses. Enfin voilà, il y a quand même des dangers qui sont là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit tous chercher l'équilibre entre tout ce que ça peut nous apporter, parce qu'il y a énormément de positifs là-dedans, mais s'en éloigner aussi, essayer de mettre une barrière minimale afin de ne pas être submergé par tous les aspects négatifs qui peuvent nous empoisonner la vie à long terme, quoi.
Alors, pour vous, les données personnelles sur Internet sont-elles sécurisées pour vous ? Chama, par exemple.
C'est vrai que je ne suis pas une grosse geek là-dessus, mais je ne pense pas, en fait. On a toujours ces trucs qui circulent à nous dire que Facebook, toutes les données qu'on partage sont à vitam aeternam sur Internet. Je pense qu'après, il y a aussi une part de responsabilité à prendre soi-même, qu'à partir du moment où on partage quelque chose, ça peut être totalement enregistré, déjà, que ce soit une image, un texte ou quoi. Mais on est quand même responsable de ce qu'on partage, en fait, et de ce qu'on publie. Donc, je ne pourrais pas vous répondre de manière très technique.
Et vous, Bader?
Effectivement, les données sécurisées, je pense qu'il n'y a pas, j'ai envie de dire, une garantie à 100% que nos données sur Internet sont sécurisées. Aujourd'hui, moi, je me pose plus la question de la mauvaise rencontre sur Internet pour un jeune. On n'est pas derrière lui, on n'est pas forcément à côté de lui. Donc, on ne sait pas avec qu'il communique, etc. C'est plutôt là-dessus, moi, que je serai attentif. Après, la sécurité des données, aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui m'inquiète. Si quelqu'un va pirater ma carte, tant pis. Il y a aussi aujourd'hui des assurances, des choses comme ça. C'est plutôt le côté l'image qui circule. Peut-être que dans 20 ans, moi j'en ai 42, peut-être que dans 20 ans, ma fille regrettera que j'ai posté une photo d'elle à 6 ans avec une tête aussi ridicule, j'allais dire, mais c'est pas ça. Mais voilà, c'est tout ça en fait. C'est attention à ce qu'on publie, attention aux personnes avec lesquelles on communique. C'est peut-être ça la sécurité aujourd'hui sur Internet, et puis être prudent. Voilà.
Et vous, Sarah, sont sécurisés pour vous ?
Qu'elle soit sécurisée, pour ma sécurité, pas de souci. Dans le sens où aujourd'hui, on est quand même dans une société où il y a beaucoup de dangers. Alors le fait qu'on recueille des informations, qu'on les garde, qu'on les archive pour la sécurité des citoyens, ça, je peux pas être contre. Dans le sens où on sait qu'aujourd'hui, ça peut permettre de déjouer beaucoup d'attentats. On sait aussi que ça peut permettre de déjouer des trafics de drogue importants, etc. Le fait d'archiver toutes ces données personnelles, de garder un œil dessus. Après, ça me dérange plus quand déjà c'est à usage commercial, quand il y a une manipulation qui se fait. Moi, je sais que sur les réseaux sociaux, etc., les publicités qui apparaissent devant moi, bizarrement, elles conviennent tout le temps à ce que je recherche et à ce que je demande. Donc là, il y a une vraie surveillance qui est problématique, parce que c'est pour me soutirer de l'argent. Et aussi, là, je vous rejoins les deux autres invités, quand c'est aussi dangereux, ou qu'il y a cette sensation de on ne peut pas revenir en arrière, quoi. On fait une erreur et ça va nous poursuivre toute notre vie. En cela, je trouve que là, ça pose problème. Donc pareil, c'est toujours cette question de l'équilibre. Nos données personnelles pour la sécurité, très bien, mais maintenant pour s'en servir contre nous, non.
Du coup, j'ai une question pour toi, Sarah. Mais on parle des personnes qui possèdent tout ce qui est cette technologie-là, mais celles qui ne le possèdent pas, est-ce qu'elles sont vraiment intégrées dans la société d'aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je pense que ce qui est aussi difficile, c'est qu'il y a cette nouvelle génération des digital natives qui est vraiment super connectée, qui sait tout ce qui se passe dans la minute, dans l'heure, et qui sait super bien l'utiliser et tout, de plus en plus, parce que si à l'école, on nous apprend à faire attention à ces outils-là. Mais il y a aussi les digital immigrants. Et ça, c'est les personnes plus âgées qui n'ont pas du tout cet accès-là à la nouvelle technologie, qui ne savent même pas comment ça fonctionne. Et eux, du coup, ils se sentent en marge de cette société. Ils sont un peu perdus parce qu'ils ne savent plus comment ça fonctionne. Ils ne savent plus comment communiquer, ils se sentent un peu abandonnés, ils ne savent plus comment... Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire un travail pour les impliquer de plus en plus à notre société connectée, quoi.
Effectivement, moi, je te rejoins là-dessus sur les nouvelles générations et puis les anciens qui sont un petit peu, les oubliés. C'est un peu quel terme ils avaient utilisé, il y avait le terme de la fracture numérique, mais il y avait aussi ça va me revenir. Et ce que je voulais dire par là, c'est que nous on propose, en tout cas moi sur le centre de la Beautière, je propose des ateliers. À la base, je l'ai mis en place pour les anciens. Ce qui est intéressant, c'est intergénérationnel, c'est à dire que c'est des jeunes qui sont super au top avec la nouvelle technologie, et puis à côté les petits vieux du quartier, les anciens, moi je les appelle, qui eux arrivent et aujourd'hui sont un petit peu obligés de faire avec pour certaines démarches, par exemple. Et moi, ça, ce qui me marque déjà, c'est je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est-à-dire que je l'ai mis devant l'ordinateur et voilà, ils cherchaient le bouton pour allumer l'ordinateur. Donc on part de loin quand même. Enfin, non, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Il y a vraiment des personnes qui sont absolument c'était ça. Je crois que c'était la précarité numérique, mais c'était aussi en lien avec les quartiers dits populaires à Nantes et ailleurs, où vraiment aussi même si ça commence, comme tu disais, on retrouve de plus en plus de tablettes, etc., dans les sapins de Noël, mais aujourd'hui, voilà, je me vois pas, moi en tout cas, offrir une tablette, un iPad à mon père, quoi. Voilà, c'est clair.
Et vous, Chama ?
Par rapport à ça, je trouve qu'il y a quand même une belle évolution. On n'est pas totalement effectivement au point de... Que toutes les personnes qui sont un peu plus vieilles maîtrisent totalement le numérique, mais on y arrive tout petit à petit, je pense, et du coup ils s'y mettent de plus en plus et c'est cool, quoi.
Justement, en parlant de génération, Sarah, toi qui fais du rap, comment tu fais pour toucher le plus de personnes ou de fans, comme tu veux?
Ouais, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas que le rap, c'est un peu maintenant tous les domaines artistiques et même professionnels plus largement se servent des réseaux sociaux et du numérique pour se faire entendre. Alors déjà, on a la chance d'avoir plein de plateformes. Donc voilà, je pense à tous les réseaux sociaux, YouTube, etc. Donc ça nous permet de mettre. Maintenant, il y a aussi des systèmes de promotion. On peut mettre un peu d'argent pour qu'il y ait de plus de visibilité. Avec tout le quand on se fait un réseau, le système de partage. Tout ça, c'est des choses que moi, je ne peux pas critiquer. Parce qu'en tant qu'artiste, et je pense que Chama, toi aussi, comme je t'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment très, très bénéfique. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une visibilité qu'il y a quelques années, on n'aurait même pas pu rêver. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis à Nantes, je connais juste quelques personnes et je suis étonnée de voir que certaines de mes vidéos peuvent faire beaucoup de vues, ne serait-ce que par cette promotion numérique, quoi.
Toi, Bader ?
Je rejoins exactement ce qu'elle vient de dire. Moi, je suis d'une génération où, effectivement, j'ai fait du rap quand j'étais jeune. Voilà, ça, c'était derrière moi. Mais on n'avait pas tous ces moyens de communiquer. Nous, notre seul moyen de nous faire connaître, c'était d'être invité sur des concerts en première partie. On avait ensuite des petites cartes, des petits trucs qu'on tirait à la photocopieuse. On leur donnait des... Voilà, et pour moi, la première des révolutions, c'était l'adresse mail. L'adresse mail, pour moi, ça a été un contact. Voilà, les gens... nous, on descendait, je pense que c'était pareil pour toi, mais on descendait à la cabine téléphonique avec une carte téléphonique pour appeler. Il fallait donner rendez-vous à la personne, sinon, à telle heure précise, je viens te chercher en bas de chez toi. Et après, voilà, il n'y avait pas de... Je vois la technicienne qui sourit, ça lui parle. Forcément, c'était un peu tout ça. Il y avait les tatous, les tam-tams, les beepers. C'était une génération qui... Déjà, pour nous, c'était la révolution numérique. Déjà, pour nous, c'était un truc de malade. Et je me rappelle des premiers postes qu'ils ont installés dans le collège. C'est quoi ce truc, quoi? Enfin, on avait, nous, j'avais un vieux Macintosh au lycée, c'était à l'ancienne avec les disquettes. Mais en fait, c'est un peu à l'image de la société aujourd'hui. On fait beaucoup de débats entre vieux pour parler des jeunes et du numérique, alors qu'il n'y a aucun jeune. Là, par contre, c'est pas le cas. Je vois qu'il y a eu du progrès.
Est-ce que l'influence sur Internet a un impact sur la personnalité et ainsi créer une génération mouton?
Ouais, carrément. Bah, je pense surtout votre génération et même en dessous, là, c'est un truc de dingue, quoi. C'est, je pense qu'il y a aussi les influences, que ce soit musicales, vestimentaires, ce que tu vas regarder au cinéma, si tu lis un truc sur Internet, ah, tac, il aime ce truc-là, moi je vais faire pareil. Il y a aussi ce côté-là de copier les gens quand on est un peu jeune, on est adolescent, on a envie autour de nous de rentrer dans un groupe, et socialement, je pense que c'est ça, et l'adolescence, c'est pas facile justement par rapport à ça, mais t'as envie de rentrer dans un groupe, rentrer dans un mouvement. Et je pense que du coup, Internet influence beaucoup, beaucoup les gens et peuvent faire beaucoup de mal aux gens aussi, au passage, quoi. Donc ouais, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, ouais, c'est clair.
Génération Mouton, ça me parle forcément, parce qu'on nous l'avait déjà sorti à l'époque où il n'y avait même pas Internet, il n'y avait rien de tout ça. On nous disait qu'effectivement, on suivait déjà des codes. Aujourd'hui, avec le numérique, avec tout ça, les gens essaient de se différencier, donc c'est un peu différent. Après, génération mouton, forcément, les jeunes, déjà, ils s'habillent tous pareil. Mais c'est vrai, il y a un artiste qui a fait ça, un photographe, qui avait photographié dans un centre commercial à Créteil. Et c'est une photo qui était, pour moi, marquante. C'était 9 gamines différentes, ou gamins, et ils étaient tous habillés quasiment pareil, quoi. Et aujourd'hui, oui, on est des moutons, parce qu'on répond à des codes, il faut le dernier téléphone, si le voisin, il a... Alors chez les adultes c'est pareil, hein. Enfin c'est un peu plus violent. C'est si le voisin il a acheté la dernière voiture, moi je vais tout faire pour l'acheter, ou s'il a acheté la piscine, je vais essayer d'en faire une. On se copie tous.
En ce moment, il y a cette tendance là de porter les kawaii, les vêtements Fila, les Champions, ces vêtements qui existaient, c'était des anciennes marques et maintenant on commence à les reporter. Vous avez un avis sur ça?
Bah, là, c'est vraiment la mode du vintage, de la fripe. Il y a de la friperie partout. C'est vraiment... Après, c'est cool. Hein, moi-même, je vais en friperie. Je porte des fringues de friperie. C'est cool. Mais c'est vrai que c'est hyper drôle parce que bon, moi, je suis un petit peu plus jeune du coup que toi. Mais c'est vrai que c'était mes grands frères, ma grande sœur qui portaient les trucs champions, là, Fila. En vrai, c'était pas du tout la classe à l'époque, je pense. Enfin, un peu moins. Maintenant, c'est devenu genre hyper hype et du coup, c'est hyper drôle. Enfin, c'est vrai que du coup, il y a un retour. En fait, finalement, la mode aussi, c'est ça. C'est un retour à l'ancien, en fait.
On casse les codes.
C'est toujours un renouvellement, mais de ce qui a déjà été fait. Et du coup, moi, c'est vrai que ça me fait super rigoler de voir les espèces de grosses baskets compensées, ignobles, mais que tout le monde trouve ça stylé. Bon, voilà. Après, il faut modérer le truc. Mais c'est vrai qu'il y a un retour à ça. Je trouve ça cool parce que du coup, il y a le côté recyclage aussi. Ça, c'est bien. Après que les grosses marques en font une énorme publicité derrière et utilisent le truc, ça je suis pas forcément pour. Mais la fripe c'est pas mal. Après il y a des friperies qui sont trop chères, je tiens à le dire quand même. C'est un petit peu un scandale. Mais
Il y a aussi une mode qui me fait rire en ce moment et j'ai envie de le dire. C'est la mode des baskets sales. C'est quoi cette mode? C'est devenu une mode et il paraît que... Alors, putain, pour une fois que je suis en avance. Vous allez voir, ça va venir. Génial. La mode aujourd'hui c'est d'avoir des baskets sales.
Oh, magnifique.
Ouais, baskets sales neuves. Non mais c'est assez hallucinant comme concept et effectivement, alors on est vraiment des moutons parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont aller acheter des baskets sales neuves.
Le but c'était de faire le plus de vêtements et comme on se casse pas la tête, on va tous faire la même chose et on va mettre ça sur les réseaux sociaux à travers nos stars pour que les gens y soient influencés et qu'ils les achètent.
Donc merci, on se retrouve après une petite courte pause musicale.
Carrément.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Prends garde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi.
Prends garde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux. Garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on fait.
Nous revenons après une petite courte pause musicale. C'était Stromae, Carmen. Cette chanson a un lien avec nos discussions qu'on vient juste d'avoir, qui, je rappelle, est sur la génération Mouton. Nous sommes encore en présence de Bader et Sarah au festival Tiss & Métis. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que la communication sur Internet a donc plutôt un aspect positif ou négatif? Je rappelle, par exemple, aujourd'hui, nous avons un mouvement qui s'est formé à partir des réseaux sociaux, les Gilets jaunes.
Alors, là-dessus, effectivement, moi j'ai envie de répondre par l'entrée palestinienne, parce que je suis allé 3 fois, moi, en Palestine. Alors, il y avait les CMEA, il y avait via plusieurs mouvements. Et c'est là que j'ai compris finalement que les réseaux sociaux dans un pays comme la Palestine, c'était quelque chose, c'était même une arme, j'ai envie de dire aujourd'hui, pour donner au monde, donner à voir au monde de ce qui se passe là-bas, dans cette région du monde. Et j'ai pas vu quelqu'un qui n'a pas Internet ou Facebook. Donc c'était assez surprenant. Il y a même dans les rues de Naplouse, par exemple, ou de Bethléem, vous avez vu des panneaux. Alors, il y a des panneaux de direction qui indiquent des villes, mais il y a un panneau qui m'a surpris, moi, c'est un panneau de direction, il y avait marqué Facebook par là. C'est-à-dire que ça indiquait aux habitants, alors c'était dans un camp à Naplouse, qui indiquait que là, il y avait un cybercafé. Et c'est là que j'ai compris vraiment l'importance de communiquer via les réseaux sociaux dans un pays, par exemple, où l'information est contrôlée. Ça permet aussi d'avoir une autre lecture de l'information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a la théorie du complot, qu'il y a des fake news, qu'il y a tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut, via les réseaux sociaux, essayer d'aller chercher la réponse qu'on a envie d'avoir, mais la bonne réponse. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes cherchent une réponse sur Internet et parfois tombent sur la mauvaise réponse et celle qui va les... qui va les, malheureusement les envoyer pas forcément là où ils voulaient aller.
Donc c'est à la fois un point positif et négatif, si j'ai bien compris. Et Sarah ?
Je te rejoins. Les deux. Parce que positif dans le sens où complètement aujourd'hui, je pense que c'est indispensable les réseaux sociaux pour, j'ai envie de dire, tirer le voile sur tout ce qui se passe dans le monde, pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a des choses dont on ne nous parle pas. Il y a certains pays, ils ont envie de fermer tout ça. Ils ont envie que l'information ne sorte pas. Mais les réseaux sociaux, c'est tellement une arme puissante aujourd'hui que finalement, ils ne peuvent pas y faire face. Et ça nous permet à nous de prendre conscience de ces choses-là et d'organiser des associations, des mouvements pour venir en aide à ces pays-là. En ce qui concerne les Gilets jaunes, pareil, c'est, les réseaux sociaux, ça a réellement permis au mouvement d'éclater. Ils ont eu des réponses du président, donc ça montre bien que les réseaux sociaux ont aidé. Et après, moi, je dis quand même négatif, dans le sens où si ça donne la parole et ça donne de la visibilité au bon mouvement, ça donne la même parole et la même visibilité au mauvais mouvement, au mouvement haineux, au mouvement complotiste, ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est très dangereux. Et quand on voit les Gilets jaunes, par exemple, on a vu qu'il y avait certaines grandes têtes des Gilets jaunes qui avaient profité de leur visibilité pour transmettre un très beau message au début. C'est super. Et quand il y a eu les attentats de Strasbourg, c'est même certains de ces grandes têtes de Gilets jaunes ont avancé des théories complotistes. Et de par le fait qu'ils ont une communication maintenant qui est extraordinaire, ils ont atteint beaucoup de personnes par ces théories-là. Donc ça peut faire beaucoup de mal.
Et ouais, justement, en parlant de technologie, une question un peu philosophique. Et toi, Bader, comment tu vois la technologie dans le futur? Enfin, la place de la technologie dans le futur?
Ah, c'est une bonne question, la technologie dans le futur. Je crois que j'ai vu une pub il n'y a pas longtemps à la télé où c'était une personne qui marchait et avec ses yeux. Il expliquait qu'en gros, bientôt, on pourrait marcher et être connecté en permanence, etc. Alors encore une fois, pour moi, ce n'est pas forcément super positif, mais quand ça apporte des progrès à la médecine, quand ça apporte des progrès à tout ce qui peut servir dans des choses qu'on n'arrive pas aujourd'hui à résoudre, Moi, pour moi, c'est ça, peut-être l'avenir de la technologie. Et... Alors, attention, après, à côté, je commence à entendre ici et là, il faudrait mettre des puces à des certaines personnes, il faudrait qu'on soit tous pistés, etc. Et c'est peut-être là qu'il va falloir être attentif. Mais en tout cas, moi, en tout cas, mon plus grand espoir et mon plus grosse envie, c'est que la technologie vienne en aide, elle le fait déjà, à la médecine, pour résoudre des problèmes.
Mais donc, il faudrait ralentir l'innovation ou justement continuer et encourager d'innover dans un futur
Je pense que ça a déjà commencé. Hein. Aujourd'hui, la révolution numérique, elle date déjà de 1995. Donc, il y a déjà un petit moment. On va maintenant peut-être poser la deuxième étage de la fusée pour pouvoir avancer. Et donc... J'imagine que oui, demain, ça sera des choses vraiment plus positives où on va essayer de faire attention. Pour avoir échangé avec des parents, ils me disent « Moi, ça ne me dérange pas que ma fille ait une puce sur elle. Je saurai où elle va. Où elle... » Mais ça pose des questions de liberté, de tout ça. Et voilà.
Et toi, okay. Sarah ? Et complètement. Alors moi, je veux vraiment te dire que je te rejoins totalement sur la question de l'évolution de la médecine, notamment parce que je pense que là-dessus, c'est extraordinaire à quel point il faut continuer d'innover. Parce que les améliorations médicales aujourd'hui, on peut redonner vie à des personnes qui étaient destinées à mourir. Enfin, c'est extraordinaire. Et au-delà de ça, en fait, moi, je tiens à aborder une question qui est un peu intéressante, c'est que l'homme est en constante évolution et qu'on remarque depuis quelque temps qu'il évolue pas tant que ça, en fait, que notre extérieur, il évolue, mais que nous, on n'évolue pas. Et donc, je suis pas en train de dire que je suis pour, encore une fois, d'être robotisé ou de mettre des puces qui priveraient nos libertés et tout. Alors là, pas du tout. Mais par contre, je pense que oui, on doit continuer d'innover dans le sens où, eh ben, il faut qu'on évolue en tant qu'homme. Et comme notre arme principale aujourd'hui, c'est la technologie et le numérique, eh ben, il faut qu'on continue dans ce domaine-là pour qu'elle puisse nous aider et nous apporter au quotidien des solutions, quoi.
Donc si j'ai bien compris, le futur nous dira ce qui va se passer.
Complètement.
On a déjà quelques exemples concrets. Je parlais de la médecine tout à l'heure. J'ai vu récemment aussi dans une émission les gens qui ont été amputés par exemple d'une jambe. Aujourd'hui, il y a un progrès dans la prothèse qui est aussi lié au développement du numérique, à tout ça. Et on n'imagine pas aujourd'hui tout ce qu'on peut faire. Des gens aussi qui étaient en fauteuil roulant et qui marchent grâce à des... ils sont équipés d'un tout un système. Moi, je suis passionné par ça.
Moi, ça me passionne tout autant dans le sens où, même aujourd'hui, sur les maladies neurologiques, alors ça, c'est des choses... Mais il y a quelques temps, le cerveau, c'était quelque chose qu'on ne comprenait pas. On ne peut plus rien faire aujourd'hui. Et on pouvait plus rien faire. Et aujourd'hui, on peut faire. On arrive à... aider des personnes qui ont des maladies neurodégénératrices et tout, etc., ce qui était totalement impensable avant.
Et puis surtout, on dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir.
C'est ça.
Et aujourd'hui, le numérique, je pense qu'il il va servir à ça, c'est-à-dire à dépister, à prévenir en tout cas des dangers que notre corps guette, on va dire.
C'est ça.
Et finalement, ouais, j'espère en tout
attention.
Cas.
Voilà. Il faut faire attention quand
Mais
même.
Prudence voilà. quand même.
Il faut qu'on se batte pour qu'on veille à ce que l'innovation se fasse sur ces domaines-là et qu'elle ne se fasse pas ailleurs et qu'elle se retourne contre nous, bien sûr. Et ça, le futur nous le dira, comme tu disais.
Donc, pour conclure, il y a des points positifs et des points négatifs. Donc, pour finir, j'aimerais bien vous remercier pour votre présence déjà
merci
d'avoir
à vous.
Merci à vous.
Fait un débat. Donc, merci Bader, Sarah et Chama qui étaient avec nous juste avant.
Bonne Merci continuation.
À vous. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission en direct de la 26e édition de Tissé Métis. Aujourd'hui, je suis avec Sakina. Sakina, bonjour.
Bonjour, Dominique. Donc oui, nous sommes à la Cité des Congrès de Nantes pour le festival Tissé Métis, en présence de Jérôme Esposito.
Jean-Jérôme,
pardon, Esposito.
Bonjour Sakina et bonjour Dominique. Félicitations pour votre radio Jet FM.
Merci. On n'est pas encore au bout de nos surprises, je pense, sur cette antenne. Nous recevons également Steve de la compagnie Javali. Bonjour Steve.
Bonjour à tous et à toutes.
Et alors, avec Javali, vous présentez en collaboration avec les CMA Amifou,
oui,
ici.
Du théâtre de l'opprimé, des jeunes mineurs, isolés, qui racontent leur parcours sur Nantes. On ne va pas parler de leur parcours d'avant, mais qu'est-ce qui se passe à Nantes quand on est mineur isolé ? Voilà, je vous en parlerai peut-être dans 5 minutes.
finalement, on reçoit ici deux créations théâtrales ce soir.
Tout à fait.
Je reviens un tout petit peu sur Récit de mon quartier, donc.
Oui.
Qui est le nom de cette... C'est une pièce, c'est un spectacle.
C'est une pièce de théâtre avec un seul personnage, enfin une seule personne sur scène, monologue, mais je joue plus de 30 personnages. En fait, Récit de mon quartier, c'est mon enfance romancée dans les quartiers populaires de Marseille. Je ne me regarde pas le nombril, hein. C'est très drôle, mais pas que. C'est un théâtre populaire et politique. Et je parle de tout ce qui s'est passé dans ma jeunesse, dans mes quartiers, qui a fait que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. La rencontre des gens différents de moi qui ont fait que, ben, à force de rencontrer la différence, qui est une richesse, je suis devenu moi-même un homme aujourd'hui. Voilà. La rencontre des autres est très importante et on n'a pas tous eu la chance de vivre dans les quartiers populaires où on se rencontre tous les jours, toute la journée. Donc c'est important pour moi de le dire en ce moment aux autres, à toute la France. Voilà.
Sur notre première thématique qui est « Qu'est-ce qu'être jeune ?»
Voilà. Alors peut-être on peut revenir, d'ailleurs, faire ce lien-là avec Récit de mon quartier typiquement. Cette jeunesse-là dans les quartiers populaires à Marseille, donc ouais. Les quartiers nord de Marseille, c'est un écho également à l'actualité de ces derniers temps.
J'ai pas fait exprès, mais c'était déjà un écho à l'actualité quand je me suis mis à l'écrire dans les années 2005. À l'époque, on avait un gouvernement assez rosse avec nos banlieues parce qu'on voulait les nettoyer au Karcher. Je sais pas si vous vous en souvenez et tout. Et plein d'autres choses. On voulait renvoyer des malheureux dans leur pays alors qu'ils n'avaient pas forcément de pays et ils étaient menacés dans leur pays. Donc toutes ces choses-là me mettaient en colère et j'avais envie d'emmener ma pierre à l'édifice, de faire un témoignage et de dire tout ce qui n'est pas dit sur nos quartiers et tout ce qui se passe tous les jours avec tous les gens qui ont envie de vivre ensemble et de construire la France et d'autres pays, parce que ça se passe comme ça ailleurs aussi, qui ont envie de construire une vie simplement heureuse et ensemble. Voilà, donc c'est l'exact contraire de ce qu'on peut voir à la télévision ou dans les médias, ce qu'on peut dire sur les quartiers populaires de Marseille ou d'ailleurs, parce que c'est universel. Après, je parle de Marseille, mais ça parle de partout. J'ai joué d'ailleurs, j'ai fait une tournée en Algérie, je joue un peu partout en France, voilà.
Et cette quête finalement d'une vie heureuse, c'est ce qu'on voit également retranscrit dans Ami Fou, dans cette création-là, des mineurs isolés.
Être heureux, c'est oui, c'est... effectivement, c'est plutôt une aspiration aujourd'hui pour ces jeunes qui ont franchi tellement de comment dire, de à la fois de galères, de un parcours de fou, c'est un parcours de fou, c'est-à-dire que là, moi, en tant qu'animateur. Les metteurs en scène là-dessus, et j'ai absolument rien à leur apprendre. Ils ont franchi des étapes dans leur vie qui, on pourrait leur donner 45, 50 ans derrière de vécu, moi là-dessus. Donc oui, les jeunes, là oui, c'est plutôt une aspiration au bonheur, mais avant d'y arriver, il va falloir transformer un peu le réel. Transformer le réel, bah, c'est ce qu'ils vont essayer de poser, d'ailleurs en racontant leur récit de vie sur Nantes. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive ? Il y a des scènes de solidarité, beaucoup à Nantes, beaucoup. Mais il y a aussi des scènes de dureté, de ce qu'on pourrait appeler aussi de racisme institutionnel. Donc comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'il est difficile pour eux d'être hébergés de nuit, par exemple. On le raconte. Être mineur, ne pas être mineur, ne pas être considéré comme mineur, ne pas être considéré comme majeur. C'est une zone fantôme, donc ils n'ont aucun droit. C'est la difficulté aussi d'être évalué par un... Effectivement, par un organisme qui va juger de leur minorité ou de leur majorité. Sur quels critères ? On n'en sait absolument rien. C'est, pour moi, c'est ce qu'ils posent eux. Hein. Il y a de l'arbitraire. Ils le racontent avec leurs mots. Il y a des scènes aussi d'espoir, aussi de mobilisation réussie. Tout ça, c'est avec leurs mots. Il n'y a aucun texte décrit. Donc le spectacle, quand on m'a demandé combien de temps il dure... Le spectacle, il dure entre 45 minutes et 5h30. Mais oui, il y a de ça. Chez eux, il y a leur expérience. Mais c'est aucun misérabilisme. Aucun. Ils ont une patate d'enfer. Ils envoient du pâté.
Et pendant la phase de création, est-ce que les jeunes d'Ami Fou qui ont créé ce groupe et qui constituent et qui forment ce groupe ont réfléchi sur quelle est leur définition de la jeunesse ? Qu'est-ce qu'être jeune ?
La jeunesse, ils quittent beaucoup. Donc, est-ce que la jeunesse, c'est quitter... quitter un autre monde pour aller dans celui du monde. je n'en sais rien, je ne peux pas parler à leur place du tout. Je sais qu'ils ont quitté beaucoup.
Et si je suis votre définition, votre expérience personnelle, comment vous définiriez la jeunesse?
Ma jeunesse à moi.
Oui,
ma
oui.
jeunesse, elle vient aussi des quartiers populaires. Si je suis là, je suis pas là. Je pense par hasard, il y a une histoire. Des quartiers populaires, on vient de là avec... Il y a une histoire, alors je ne sais pas comment elle se transmet. Moi, je suis suisse de migrants aussi, alors ça veut tout et rien dire non plus. Mon papa est marocain, ma maman est bretonne. Je ne sais pas, pour le moment, moi, je suis là parce que j'ai un sens là-dedans.
Est-ce que peut-être Jean-Jérôme Esposito, ici on parle de gens qui quittent, de gens qui voyagent finalement. Est-ce que vous, votre jeunesse, vous la voyez comme un voyage, comme un itinéraire peut-être? C'est comme ça que vous la présentez dans cette pièce-là?
Bien sûr, c'est un voyage. C'est un itinéraire. Je suis très touché par ce que vient de dire mon camarade. Et j'ai très envie de voir le spectacle Ami Fou. Je crois qu'on joue ensemble, donc ce ne sera pas possible cette fois, je crois. Mais je suis très touché par ce que tu viens de dire. Et tu as dit quelque chose, c'est des jeunes en partance, ils quittent. Je crois que même si tu ne quittes pas géographiquement en parlant, je pense que la jeunesse, il y a de ça, de vouloir se débarrasser du vieux monde, vous réinventer tout. Et c'est important quand on avance ensuite dans l'âge, de jamais oublier, quand on dit faut pas oublier l'enfant qui est en nous, faut pas oublier l'enfant qui réinvente tout, qui est pas d'accord avec les codes qu'on lui propose parce que lui ça se passe autrement dans sa réalité et qui voudrait simplement simplifier les choses, même si des fois c'est difficile de simplifier les choses. La jeunesse, c'est de pas avoir peur, justement de prendre les choses à bras le corps et de pas en avoir peur. Quand on vieillit, on commence à avoir des peurs, des soucis, des inquiétudes parce que on se dit c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et en fait, on s'en fiche de comment c'est le monde quand on est jeune. L'important, c'est qu'on a envie de vivre ensemble. Et faut garder ça en soi, quoi. Bienvenue à mes amis fous.
Oui, et ce que l'on souhaite construire certainement quand nous sommes jeunes. Et on a un ami fou qui nous a rejoint. Bonjour et bienvenue sur notre plateau.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Kamara Boubacar.
D'accord.
Donc, vous êtes membre de l'équipe d'Ami Fou. Vous avez participé à cette création, théâtrale?
Oui, bien sûr.
Et vous y racontez... Qui racontez-vous dans cette pièce?
Moi, je suis né en Guinée-Conakry, en Afrique de l'Ouest. Je suis venu en France il y a une année, presque. Donc, c'est ça, premièrement.
C'est l'histoire de ce voyage, finalement.
Maintenant, j'ai quitté en Guinée. D'accord. Avec beaucoup de difficultés parce que j'ai quitté de loin, d'un continent à un autre. Mais l'épreuve était difficile pour moi de tout quitter et de tout laisser dans mon pays, de venir... vivre dans un pays étranger, c'est trop. J'ai passé beaucoup de moments difficiles, vraiment.
Et aujourd'hui, quelles sont vos préoccupations? À Nantes, il y a le projet Ami Fou, un accompagnement aussi. Qu'est-ce que ce projet vous a apporté?
Ce projet m'avait apporté beaucoup à Nantes, parce que depuis que j'étais à Nantes, j'étais pas soutenu par les associations, mais le jour que j'étais parti à CMEA, on nous a encadrés parce que ce moment, je ne parlais même pas la langue française, je parlais seulement ma langue nationale, Soussou. Donc, avec l'association, on nous a donné la langue étrangère qu'on ne connaît même pas. Alors, ça m'a pris la première des choses d'abord. Deuxièmement, on m'avait mis à l'école. Alors, troisièmement, j'avais eu mon apprentissage et je pratique aussi la culture à Nantes. Donc, j'ai fait partir l'un des meilleurs danseurs, artistes nantais aujourd'hui. Donc, c'est grâce à cette association.
Entendu. Merci pour votre partage.
Jean-Jérôme Esposito, on lit votre émotion aussi face à, j'ai l'impression, ou en tout cas votre attention face à ce témoignage.
Bon, la radio, on ne voit pas tout. Donc, oui, Oui, bien sûr qu'il y a de l'émotion. Moi, c'est mes parents qui ont quitté leur pays, qui sont arrivés en France. Et je suis le fils de mon père et de ma mère. Ils ont certainement vécu tout ça aussi. Donc oui, il y a de l'émotion, bien sûr. Après, moi, ce que je raconte, j'ai pas voyagé, moi. Géographiquement parlant, c'est-à-dire que moi, je suis né dans les quartiers populaires. Nous, on tapait chez la voisine, on est arrivé en Afrique, on tapait chez l'autre voisine, on est arrivé au Vietnam, on tapait chez la... On a voyagé comme ça, nous, juste sur les paliers. Et on partageait tout. Et donc moi, je suis un peu ce que ce que tu vas vivre bientôt chez nous en France. Voilà, bienvenue l'ami.
Alors, merci.
Justement, ces jeunesses-là, ces histoires-là, celles des quartiers populaires, mais aussi celles mouvementées finalement qui sont racontées ici, comment est-ce qu'on les transcrit au théâtre? Comment est-ce qu'on raconte ces choses-là au théâtre, sur une scène?
Partir d'une situation compliquée et violente, c'est pratiquement ce qu'il y a entre guillemets de plus simple à traduire, parce qu'il y a juste besoin de témoigner. Ensuite, après, il faut choisir comment tu veux l'amener aux autres. Le rire est une arme formidable parce que tout de suite, on arrive à dédramatiser et à prendre du recul sur la situation, parce que c'est la définition même de l'humour, prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre et donc de rire. Souvent, quand on vit une situation compliquée, avec le recul, on en rit parce que le rire est libérateur, c'est une réaction hystérique à la peur. Et du coup, moi, j'ai choisi d'utiliser l'humour et le rire dans mon spectacle pour parler des situations compliquées qu'on vit dans les quartiers populaires. Voilà.
Et nos amis fous, peut-être, sur cette question-là, comment est-ce qu'on raconte ces choses-là au théâtre?
D'abord, oui, nous, la compagnie, si je peux me permettre, on s'inscrit dans le cadre de l'opprimé, qui est une méthode. Donc, on va d'abord... parce que faire en sorte qu'ils m'autorisent à aller les chercher sur leur histoire, parce qu'au départ, comme Aboubacar disait, on n'a pas les mots, pas forcément les mots, on a juste des corps qui ont morflé. Donc d'abord, comme on dit, l'oppression, elle est marquée par les corps. Elle est marquée par les corps, donc on va utiliser les corps pour se raconter, sans un mot, parce que les gens ne sont pas forcément non plus prêts à mettre des mots sur ça. Mais en tout cas, leur corps, leur histoire, elle va en servir à d'autres, en écho. Donc il y a une émergence de récits de vie progressivement. Donc c'est des petit à petit. On fait beaucoup de jeux avant. Parce qu'effectivement, le rire, il doit être là. Et puis, eux m'ont renvoyé plein de choses aussi. C'est-à-dire qu'on essayait, on a essayé. C'est des espaces d'équilibre entre nous, animateurs, et les gars. Parce que, comme on disait, moi, je viens pas par hasard. Donc je me suis aussi raconté. Je viens pas juste pour aider les migrants. Moi j'ai mon histoire personnelle aussi que je règle peut-être aussi là autant qu'eux, donc on a essayé de se raconter pour interpeller. On est sur effectivement du théâtre politique qu'on assume pleinement et populaire parce que c'est leur expérience de vie, et populaire dans le sens noble du terme, c'est leur savoir, leur expérience, ils la jouent, donc c'est eux qui ont voulu. Alors essayons ensemble.
Je vous remercie. Là, je vous propose une petite pause musicale, puis on continuera sur notre thématique, pardon.
Voilà, à tout de suite.
Merci, à tout de suite.
Together, 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 together. in spite of the weather, we can learn to make it together.
Et nous revoilà en présence de Jean-Jérôme Esposito, de Merci. Steve et d'Aboubacar du projet Amifou. Amifou, l'équipe d'Amifou, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que le théâtre de l'opprimé ?
Donc le théâtre de l'opprimé, c'est né au Brésil dans les années 60-70 avec Augusto Boal dans un contexte de dictature. Donc dans ce contexte de dictature, il va créer au fur et à mesure des outils qui vont tenter, c'est dur en deux minutes, hein, qui vont tenter de changer le monde, en tout cas ce contexte. On avait un contexte d'extrême droite, hein, celui qu'on retrouve un peu aujourd'hui, peut-être pas encore en dictature, mais dans un contexte où l'information, elle était muselée, où les gens étaient arrêtés, torturés. Donc là, l'idée, c'est effectivement de faire la révolution. Hein. Et donc, dans ce moment-là, donc, il a inventé des outils, dont Théâtre Forum. Alors, en quelques mots, tel qu'on me l'a raconté, donc je vais le raconter de cette manière-là. Donc, alors, au départ, il y a Augusto Boal, il a une troupe, Sao Paulo, le Théâtre Arena. Dans les années 60, ils font des pièces dites engagées contre les discriminations sexistes, racistes. D'ailleurs, plus tard, il dira, on était des hommes blancs qui disaient aux femmes comment combattre le sexisme, et on était des hommes blancs qui disaient aux noirs comment combattre le racisme. Donc, ils se sont retrouvés dans une petite contradiction, en tout cas d'une réflexion. Donc, voilà, un théâtre engagé contre discrimination. Et puis, y a les coups d'État et un danger pour la compagnie. À un moment donné, on jette une grenade dans le lieu où ils répétaient. Donc, ils décident de quitter leur site et de partir en campagne, en ville, pour aller faire des pièces auprès des populations locales directement. Et donc, on avait en face une population plutôt analphabète. Et à ce moment-là, on se dit, ouais, il faut leur donner des informations, parce que l'information, avec ça, on peut savoir et donc transformer le monde. Donc, ils ont fait du théâtre journal. Et puis, ils ont continué à faire ça. Et puis, un jour, ils sont arrivés dans un village. Ils jouent une pièce qui se termine par « Versons notre sang pour notre terre, versons notre sang pour notre terre ». Et là, c'est une femme, une comédienne, qui brandit un fusil devant un groupe de paysans. La scène se termine. Et il y a Virgilio, c'est la légende de Virgilio du Théâtre Forum, qui commence. Ému aux larmes, il dit « Oh, il y a des artistes de la ville qui viennent jouer auprès de nous. Waouh, vachement fier !» Et puis, qui partagent les mêmes convictions. Donc, Virgilio vient voir la compagnie et leur demande « Écoutez, je suis vraiment super content. » C'est avec mes mots que je vous le raconte. Hein. « Je suis super content. Cet après-midi, nous, on va essayer d'aller combattre le colonel. » Le colonel, c'est le propriétaire foncier qui a pris la ferme d'un de leurs camarades et qui a installé une milice et qui menace de brûler l'exploitation. Alors là, il y a la compagnie de théâtre qui dit « Attendez, nous, on est des comédiens. Et puis demain, on joue ailleurs. »
Ce soir, pour la révolution, c'est compliqué.
Non, c'est pas la révolution qu'on demande, c'est la transformation.
Oui.
Une transformation, c'est pas possible de rester comme ça. La compagnie a réfléchi, elle dit « Mais il faut arrêter de faire des textes messianiques, de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, et que quand on prend pas les mêmes risques. » Donc, ils ont arrêté de faire des textes messianiques. Ok, ils vont réfléchir, ça les a beaucoup chamboulés. Ils vont créer un modèle qui s'appelle la dramaturgie simultanée. Alors là, c'est des pièces qui se terminent mal, jouées par des comédiens, des pièces politiques, des situations politiques qui se terminent mal, et on demande au public en face de lever la main et donc à la fin de demander aux comédiens d'improviser une piste d'action. Donc c'est ce qui se fait, quoi. Et puis un jour, il y a une dame qui vient les voir, elle dit voilà, moi mon problème à moi, il est pas politique. Mon problème à moi, c'est, je peux vous le raconter. Augusto Boal dit, oui, bien sûr, tout est politique. Hein. Alors la dame arrive et puis elle raconte, elle dit, voilà, moi, mon mari, il me demande toujours de l'argent, et il part, il s'absente toutes les semaines, et il dit qu'il va construire notre maison ailleurs, là-bas. Et puis moi, la femme, elle dit, moi, j'aimerais bien voir où se trouve cette maison, et qu'est-ce qu'il fait de cet argent-là. Donc je lui ai demandé une facture. Alors le mari lui a donné un papier qui, soi-disant, était une facture. Elle ne sait pas lire. Et donc, elle va voir sa voisine. Et sa voisine lit la lettre, ce qui était une lettre, en fait. Elle dit, mais ce n'est pas une facture, c'est une lettre d'amour. Son mari avait une maîtresse. Et là, elle dit, voilà, moi, ma situation, c'est que mon mari, il revient demain. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, les comédiens, ils improvisent la situation. Donc, plusieurs pistes d'action sont posées par le public. Oui, il faudrait qu'elle parte. Oui, mais une femme, à cette époque-là, qui quitte sa maison, elle n'a plus rien. Bah, faudrait qu'elle dise qu'elle sait tout. Ouais, mais sauf que là, à ce moment-là, la femme, elle dit qu'elle sait tout, elle pleure et elle continue à lui faire son dîner le soir. Et puis, à un moment donné, dans la foule, une grosse dame qui imposante et qui fait peur à Auguste Boal, qui bouge un peu les spectateurs et qui est vraiment pas contente. Et puis, Auguste Boal dit bah, qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous avez une piste d'action? Oui, il faudrait lui donner une explication sérieuse. Ok, bah, donc, Auguste Boal demande à sa comédienne de lui donner une explication sérieuse. Elle lui donne une explication sérieuse. Ouais, mais sauf que ça suffit pas pour la dame. Alors, elle rouspète encore, elle dit, mais Auguste Boal toujours dit, qu'est-ce que vous voulez? Mais j'ai demandé, moi, une explication très sérieuse. Ok, alors la comédienne va lui donner une explication très sérieuse. Elle donne une explication très sérieuse au mari. Sauf qu'elle continue de lui faire son dîner le soir. Alors là, elle n'en peut plus, la dame, elle dit, non, ça va pas, elle pousse tout le monde. Et Auguste Boal, à un moment donné, elle lui dit, venez sur scène. La dame vient sur scène. Elle prend un manche à balai, le comédien qui interprète le mari se fait rosser à coups de balai, et elle lui dit maintenant, c'est terminé, maintenant c'est toi qui viens me faire mon dîner. C'est à partir de là qu'est né le Théâtre Forum, pour dire tout simplement qu'on ne peut pas faire à la place d'eux. D'où commence l'aventure du théâtre de l'opprimé, avec d'autres outils derrière, mais ça serait encore une plus longue histoire.
C'est déjà une très belle histoire qui racontait là.
Parole, au contraire, c'était super. Moi, je connaissais plus ou moins l'histoire parce que, bien sûr, je me suis intéressé au théâtre de l'opprimé quand j'étais plus jeune. Et c'est magnifique ce qu'on entend là. Et ça a vraiment existé. C'est ce qu'il faut se dire. C'est des artistes sans armes, sans haine, juste avec leur cœur et l'envie de faire avancer les choses qui ont fait avancer les choses dans un autre pays, dans un autre temps. Mais ce serait toujours possible aujourd'hui. Le théâtre, c'est la liberté. Voilà.
En cela, pour faire le parallèle finalement entre ce théâtre de l'opprimé, cette création à Mifou et Récit de mon quartier, est-ce que le théâtre engagé, le théâtre politique, c'est un théâtre qui doit viser la transformation, voire la révolution, parce que finalement c'est l'objectif peut-être
Le récit de vie, c'est l'expérience de chacun, c'est le savoir de chacun. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent ne rien savoir en fait, sauf que leur expérience, à partir du moment où la conscientise, elle est source de savoir, elle est... Au même niveau que l'expert, c'est deux savoirs. Il y a Franck Lepage qui parle de savoir chaud et de savoir froid. C'est du savoir chaud, là. Et l'expérience de vie, nos échecs, nos erreurs, nos loupés, nos réussites, notre vie de tous les jours, elle est un savoir. Et ça, à partir du moment où on en prend conscience, souvent, ça permet aux gens de se dire je suis quelqu'un, en fait.
Et je suis quelqu'un et je me pose, moi, en tant qu'être humain, dans une cité, dans un environnement, et j'ai mon mot à dire sur tout ce qui doit se passer dans cette cité, dans cet environnement. Le théâtre, c'est obligatoirement politique, mais dans la politique dans le bon sens du terme. On ne fait pas de la politique politicienne. Nous, on ne veut pas avoir des voix et être élus. On veut juste être entendu. Voilà. Raconter l'histoire d'une personne, c'est raconter l'histoire de l'humanité tout entière. Il est important qu'on prenne la parole et qu'on raconte l'histoire des gens. Moi, je le fais avec l'histoire des miens, mais il m'arrive en tant qu'acteur de raconter l'histoire d'autres personnages. Je prends autant de minutie, je prends autant au sérieux l'histoire d'un autre que la mienne, et j'ai envie de la porter, parce que c'est des témoignages, et c'est comme ça qu'on fait avancer aussi les mentalités et les choses. Voilà.
Steve, vous devez nous quitter. Ah oui. Il me semble que Amifou est en préparation, en grosse préparation.
Voilà, en filage technique. Voilà, à 17h. Merci à toutes et à tous, en tout cas.
Merci à toi.
C'est un plaisir vraiment de se revoir.
Avec plaisir.
Merci, très vite. Steve. Merci à Boubacar de vous être joint à nous. Et aussi, Jean-Jérôme Esposito, il y avait une phrase quand j'ai exploré un petit peu pour préparer aussi notre plateau.
Dites-moi.
Une phrase du groupe marseillais, Le Troisième Œil.
Ouais. Personne ne nous représente, alors on fait nous-mêmes.
Exactement.
Le Troisième Œil, c'est un groupe de rap marseillais emblématique de ma génération. Il y avait bien sûr IAM, mais il y avait Le Troisième Œil, il y avait la Funky Family, les psychiatres de la rime. Et j'ai toujours aimé cette phrase parce que c'est vrai. Quand tu vis dans les quartiers populaires, je ne sais pas comment ça se passe à Nantes, mais à Marseille, il y a carrément une fracture sociale. En gros, tu as la Canebière qui divise la ville entre les quartiers populaires et les quartiers plus aisés. Et les quartiers populaires sont vraiment un peu laissés à l'abandon. Il y a même des immeubles qui s'écroulent et qui font des morts. On l'a vu il n'y a pas longtemps aux informations. Et donc, à un moment donné, c'est vrai que le rap, l'art de ces jeunes qui réinventent tout, parce qu'ils avaient votre âge à l'époque, le Troisième Œil, se sont dit « personne ne parle de nous ». Donc on va le faire nous-mêmes. On va dire nos problèmes, on va dire nos joies, on va dire nos envies, on va dire tout ça. Et le rap est né, c'est formidable. Tu vois ? Et moi, j'étais pas rappeur, mais j'avais leur âge. Et je me suis dit, ben pareil, je vais faire du théâtre et j'ai envie de dire ce qui se passe chez moi, ce qui se passe autour de moi. Faut pas hésiter à le faire nous-mêmes. Une prise de parole.
C'est une prise de parole et finalement, c'est une volonté qui vient de vous, qui est de dire, moi, je vais raconter récit de mon quartier, je vais raconter mon quartier, je vais raconter ma jeunesse.
Oui, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai écrit dans les années 2000-2005 et ce que j'entends encore aujourd'hui sur nos quartiers populaires, que ce soit à Marseille ou ailleurs, ça me révolte. Moi, ma révolte, elle est là. Ça me révolte parce que on parle de ces quartiers comme des endroits où on serait tous des méchants qui penseraient qu'à profiter de je sais pas quoi avec je sais pas qui. Voilà, moi j'avais envie de dire l'exact contraire de ce qu'on nous dit à la télé. Voilà, c'est un hymne à l'amour des quartiers populaires. Voilà.
Je pense que c'est une très belle conclusion pour cette émission.
On conclut sur l'hymne à l'amour ?
Oui, Dominique. Merci Jean-Jérôme Esposito.
Merci à vous.
Merci pour votre écoute active et aussi pour l'attention que vous avez portée à notre thématique. Sachez que je suis ravie d'avoir partagé mon premier plateau radio avec vous.
Et
avec
toi, pareil, je suis parti content
et l'équipe
aussi.
De Jet FM, merci. Ouais.
On vous
merci
attend beaucoup. Tous dans nos salles. Allez voir Les Amis Fous et allez voir Récits de mon quartier.
Très exactement. Bien, merci beaucoup.
Merci.
Et
merci
à bonne vous, journée jeunes. Sur oui. Nantes Jeune et sur Jet FM.
Ciao.
À bientôt.
Retrouvez tous les projets du Sonolab sur le www.sonolab.fr ou sur JetFM 91.2.